rentrer de Mbujimayi au Katanga oriental. J'ai refusé totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Dans les cadres de la mise en œuvre du processus électoral 2013-2016, la Commission électorale indépendante nationale CENI a organisé la semaine dernière la deuxième journée porte ouverte pour les organisations de base, les autorités traditionnelles, les coutumières, les responsables des associations de défense des droits de l'homme et organisations culturelles, les membres du cadre de concertation de sécurité électorale et justice électorale, à savoir les hauts magistrats et les responsables des ordres professionnels et des syndicats. Toutes ces structures ont appris sur les travaux qu'effectue actuellement la CENI en passant par l'audit organisationnel, la formation en gestion des conflits électoraux que la préparation de la présidentielle de 2016. Nous en parlons avec vous, chers auditeurs, et vous pouvez participer à ces débats avec comme question principale, quel regard portez-vous sur cette journée et sur le processus électoral 2013-2016. Vous pouvez nous rejoindre pour participer à ces débats à l'adresse pa@radiocapi.net et vous pouvez nous appelez au 081-890-6315. Vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Noël Aluzitu et Dieudonné Nyangasa concourent à la production de ces programmes. J.R. Mungembo les coordonne et le présente sous la supervision de Nicole Ngaka. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Vivez deux jours d'exception au rythme du jazz à Kinshasa, les 31 mai et 1er juin au Théâtre de Verdure avec la 8e édition du festival Jazz Kiff. A cette occasion, nous célébrerons tous ensemble les 20 ans de carrière de Lokua Kanva et fêterons le jazz avec aussi Richard Bonnard, Jean Gobal, Sarah Tavares et bien d'autres. Des concerts à retrouver prochainement sur Radio Okapi. Pour toute réservation de billets à ce festival, appelez le 081 059 98 88 ou allez sur www.jazzif.com.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. Nous ouvrons ces débats avec vous, les auditeurs. Vous êtes en ligne, Omar, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Pacifique.
Vous avez la parole, Omar. Quel regard portez-vous sur cette journée et sur le processus électoral 2013-2016?
Merci beaucoup, J.R. Je vous remercie de ce sujet pertinent et divers que vous m'indiquez. D'entrée de jeu, dès les luminaires de ma modeste cogitation, je voudrais saluer cette initiative de la CENI qui, à mon avis, démontre la volonté de crédibiliser le processus électoral et de faire participer activement toutes les couches sociales à son fonctionnement. Si vous lisez les élections démocratiques en RDC d'une toute perspective, une étude qui a été supervisée par le professeur Eli Kambokolo, vous allez vous rendre compte que parmi les faiblesses qu'on a démontrées aux deux premières élections, c'est-à-dire celles de 2006 et de 2011, c'était la non-participation des acteurs politiques dans la gestion du processus électoral. Alors, si je dois avoir un regard sur celui de féliciter la CENI qui n'a fait que répondre à l'une des recommandations qu'on a faites et qui n'a fait que respecter la loi électorale. C'est une démarche démocratiquement aisée car elle vient combler cette lacune-là et elle permet à tout le monde d'avoir un œil sur la chose publique. Ça, c'était mon regard par rapport à ces gestes de la CENI que j'encourage et que je prie à tout acteur politique de soutenir. Cependant, nous devons aussi avoir un regard sur le plan perspectif pour dire que faudra-t-il faire pour renforcer, n'est-ce pas, ces processus électoraux en RDC qui, n'est-ce pas, paraît très complexe. Premièrement, je pense que l'effort de tous est significatif. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'irrégularités que nous soutenons, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Il y a la tardivité de la mise en place de la CENI qui a posé problème. Il y a le défaut des moyens qui continuent à poser problème. Tout cela fait que le travail ne soit pas de bonne qualité. Alors, pour que ce travail électoral soit de bonne qualité et arrive, n'est-ce pas, à apaiser le système politique congolais et à réconcilier tous les membres de la communauté congolaise, je pense que premièrement, les animateurs de la CENI doivent être conscients, honnêtes et compétents. Pourquoi je le dis hier? Vous savez, dans tous les pays du monde, il n'y a plus une structure indépendante qui gère les élections. C'est plutôt les ministères des Intérieurs qui les font. Ça démontre là une degré de civilisation. Donc, on tient tellement compte à la moralité de quelqu'un et on confie. Je vous donne le cas de la France. Les élections étaient organisées par les ministères de l'Intérieur, mais Sarkozy a échoué. Il faudra que ceux qui dirigent les élections soient conscients qu'ils ont entre leurs mains les destinées d'un État. Alors, la conscience, l'honnêteté et nommer les gens qui conviennent serait, n'est-ce pas, un atout pour apaiser et aboutir aisément à ces processus électoraux. Deuxièmement, la société civile. Il ne suffit pas seulement de faire un tour, visiter le travail qui fait la CENI, il faudra aussi avoir un devoir de vigilance. Si vous lisez la Déclaration des droits de l'homme de 1978, si vous lisez la Charte de l'ONU, vous lisez notre Constitution, ces derniers appellent à tout membre de la société d'avoir une vigilance. Car ce qui importe, ce n'est pas de critiquer, mais de mettre des garde-fous, des contrôles de vigilance pour que ceux qui gèrent ne puissent pas être corrompus. Il faut aussi...
Oui, Omar, si vous le permettez, on va quand même. Il y a un message que nous avons reçu hein, de Rigen, mon pépéné, de Kisangani, qui dit le grand problème reste au fait des personnes à la tête de la CENI. Pour améliorer au fait la qualité de travail de la CENI, il faudrait qu'on associe les opposants. Bon, voilà, donc l'implication aussi des opposants. Est-ce que vous partagez cet avis?
Hier, moi, j'ai toujours dit que ce qui importe pour l'Afrique en cet instant, ce n'est pas les hommes, c'est plutôt les institutions. Car un État sérieux n'a pas besoin des hommes forts, mais des institutions fortes. On pourrait aujourd'hui changer des personnes. Aussi longtemps que le système et l'institution n'est pas organisé, on aura toujours les mêmes problèmes. C'est vrai, il faut que les gens soient honnêtes. Mais moi, je pense qu'il faudra que lorsqu'on met en place les gens, qu'on leur fasse accompagner des mesures d'accompagnement très sérieuses, notamment les contrôles. Car bien qu'État indépendant, il existe des mécanismes légaux de contrôle, notamment le Parlement qui doit faire son travail. L'auditeur a raison, celui qui l'a écrit, et moi je pense qu'il faudra plus penser à renforcer l'institution. Ce qu'on vient de faire visiter les gens par rapport au travail, c'est ça qu'on avait toujours voulu, rendre dynamique l'institution qui gère. Voyons plus la CENI que les animateurs de la CENI, car je l'ai toujours dit, nul dans ce monde n'a le monopole de la sainteté qui n'est que Dieu. Voilà. Ce qu'on doit faire, lorsque nous nommons les personnes, lorsque nous les votons, nous devons plus leur garantir des moyens de contrôle, pour qu'ils ne puissent pas déraper.
Merci beaucoup.
Ça n'exclut pas JR, que ceux qui dirigent soient aussi animés de la bonne volonté de la conscience, car on ne regrettera jamais d'avoir servi son pays.
Voilà, merci beaucoup Omar d'avoir appelé de Kinshasa, et je crois que la réforme dont a subi aujourd'hui la CENI, selon certains observateurs, ne doit plus prêter à confusion, d'autant plus que le numéro 1 de la CENI n'agit plus seul, il y a quand même une plénière, il y a aussi d'autres organes qui fonctionnent actuellement, qui peuvent aussi prendre des décisions. Merci beaucoup Omar. La Guillois, vous êtes à Kalemi. Bonjour La Guillois.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kassou.
Vous avez la parole, La Guillois.
Merci, M. Gilles Lungembo. Avant toute chose, nous encourageons un peu les travaux dont l'institution d'appui à la démocratie, la CENI, est en train de mener. Je pense que ce sont de bonnes initiatives que nous devons tous encourager. Du fait que, lors des élections de 2011-2006, il y avait toujours des contentieux. Mais l'actuel président a songé aussi à répondre un peu à une des recommandations de consultation nationale. Mais à ce sujet, je vais ajouter une chose que l'opposition aussi, il faut qu'elle soit aussi un peu sage, parce que on ne peut pas voir tout ce dont Malou qui est le président, est en train de faire comme si est en train de faire à l'intérêt de la majorité ou soit de l'opposition. Je vais demander, je pense quand vous lisez bien les chartes, les Nations Unies ont dit que toute la société civile est considérée en tant que la personne, soit la personne morale qui est chargée aussi de mener la paix. Mais comme j'ai entendu dans vos reportages, vous avez dit que non, la CENI a organisé des portes ouvertes, soit des journées portes ouvertes. Mais quelle est l'importance? Je pense que tout le monde puisse assurer un peu de la crédibilité des élections. Mais on peut organiser toute une semaine ou deux semaines de portes ouvertes. Mais si ces gens aussi, leurs cœurs ne sont pas ouverts envers les élections, envers la vérité des urnes, mais rien ne pourra jamais se faire, car cela sera considéré comme une cérémonie. Merci, Jeff. Voilà, c'est donc que je voulais un peu contribuer.
Voilà, merci beaucoup, La Guillois. Pour vous, il ne faudrait pas que ce soit un chapelet de bonnes intentions. Il faudrait que les journées portes ouvertes soient réellement, disons, qu'elles aient comme objectif la crédibilisation des élections qui prêtent déjà à l'horizon. Nous allons prendre Franck qui est à Vienne, en Autriche. Bonjour, Franck.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les amis fidèles de PA.
Alors, quel regard portez-vous sur cette journée et sur les processus électoraux 2013-2016?
Oui, merci beaucoup. Je veux tenter de intervenir par rapport à ce que les deux autres viennent déjà de dire. Notre ami Omar a bien parlé des institutions qui doivent être fortes dans un pays afin que l'État puisse aussi avoir sa coloration attendue sur tous les niveaux, quoi. Et je trouve qu'à ce niveau-là, je suis déjà d'accord avec lui, mais seulement les institutions d'un État ne peuvent être fortes que si les hommes qui les incarnent sont aussi d'une moralité acceptable par tous, si ces hommes répondent aux convictions humaines pour le bien de tous. Personnellement, je trouve que la CENI en soi, comme organe d'appui à la démocratie, n'a pas beaucoup de problèmes. Mais le problème, c'est plutôt au niveau des hommes qui doivent assurer la gestion de cet organe. Pas seulement des hommes qui doivent assurer la gestion de la CENI, mais c'est aussi aux candidats qui vont se positionner pour les différentes échéances électorales, soit à la députation nationale, soit à la députation provinciale, soit au Sénat, soit aux élections présidentielles. Monsieur le journaliste, aujourd'hui, vous êtes en train d'organiser un débat qui nous intéresse tous. À suivre vos commentaires, j'avais lu le titre depuis le week-end. Les commentaires que vous avez mis là, c'est vraiment bien. Le débat est organisé. Mais encore faut-il que les hommes qui vont se positionner acceptent aussi de se mettre d'accord sur une manière de faire ou une autre. Mmh. Et mon ami de Lubumbashi l'a dit, l'a vient de dire qu'on peut organiser des journées portes ouvertes, mais encore faut-il, encore là j'ajoute, comme il a dit, encore faut-il aussi que les hommes, les acteurs, aient aussi vraiment un cœur ouvert. Parce que chez nous, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont tellement plongés dans le système égoïste, dans l'individualisme, que personne ne veut accepter la défaite objectivement, personne ne veut voir personne à sa place. Alors, quand on organise les élections, avant même que les élections n'aient eu lieu, celui qui se fait perdant commence déjà à dire, on risque de tricher. Mm-hmm. Celui qui est en position de force fait de son mieux pour maintenir le même système pour qu'il ne perde pas de place. Donc nous sommes encore dans cette logique-là de occupe-toi de là pour que je m'y mette. Alors, avec cet esprit, c'est souvent le peuple qui est pris pour cible. Donc on passe à argumenter au nom du peuple alors que les objectifs de cette argumentation ne répondraient pas par rapport aux aspirations de ce peuple. Hier, on venait de suivre les élections à travers le Schengen ici. Nous avons constaté des montées en puissance de certains partis d'extrême droite en France, par exemple. Mais quand je suivais les débats des politiciens, nulle part on n'a accusé les bureaux de vote ou c'est quelqu'un qui a manipulé. C'est chaque politicien qui cherche maintenant à rectifier les tirs. Si nous avons perdu, c'est à cause de ceci qui manque. Si les autres ont eu autant de voix, c'est parce que voilà comment ils ont placé leur argumentation. Je crois que les problèmes des peuples, les questions sociales, les projets des sociétés, c'est ce qui devait vraiment être au sein de l'argumentation politique. Mais chez nous, c'est le contraire. On se sert du peuple pour avoir un poste, soit au Parlement, soit à l'exécutif, mais après avoir acquis ces postes-là, c'est fini. On se moque de ces peuples-là.
Voilà, alors Franck, c'est vrai qu'on est en train de commenter et la journée et aussi également le processus électoral, mais pour le cas d'espèce, est-ce que vous pensez que c'est hyper important, c'est vraiment important d'organiser ces journées portes ouvertes en ce moment, dans les contextes actuels?
Mais j'ai déjà répondu, j'ai dit c'est important, ça vaut la peine, mais encore faut-il que les uns et les autres se dépassionnent, se dépassent. Mmh. Moi je crois que le plus grand problème c'est parce que nos politiciens arrivent d'abord à se dépassionner, à dépasser leur ego. Le problème qui est là c'est l'égoïsme qui rend l'équation difficile.
Merci
quand
beaucoup.
Par exemple je sais que je vais perdre, je ne peux plus accepter que l'autre remporte ouvertement. Et c'est ce qui pose les problèmes.
Merci beaucoup, Franck.
Je suis en train de perdre mes parties, je suis en place. Je ne peux pas mettre des gens qui rendraient du bon travail pour le bien de la collectivité.
Merci. C'est ça le problème. Voilà, merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup, Franck. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Pour ses 20 ans de carrière, la star internationale Lokua Kanza est l'invité de l'émission Découverte sur Radio Okapi. Rendez-vous sur la fréquence de la paix pour écouter Lokua Kanza évoquer son expérience, les temps forts de sa carrière, ses conseils à la génération montante. En compagnie de Karine Galimbaya et Kaki Akiewa, à partir de 14h10, heure de Kinshasa, ce mardi 27 mai 2014, sur Radio Okapi, découvrez l'œuvre artistique et la vie de Lokua Kanza. Un rendez-vous à ne pas manquer sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons dans ce studio après avoir écouté cette première série des auditeurs avec Franck Devienne, la Guilloa de Kalemi, Omar de Kinshasa. Nous recevons dans ce studio Désiré Moulekela, qui est directeur de la sensibilisation et éducation civique électorale à la CENI. Bonjour Monsieur Désiré.
Bonjour.
Voilà, alors vous avez suivi cette première série des auditeurs. D'abord, quelle est votre réaction par rapport à leurs préoccupations?
Je pense que les préoccupations sont fondées. Je sais que les gens insistent beaucoup sur une institution qui soit crédible, sur la moralité de ses animateurs. Et je voulais dire qu'à ce sujet, la loi organique de la CENI garantit justement cette moralité. D'abord, au départ, ceux qui désignent les membres de la CENI doivent tenir compte de ces critères-là. Ensuite, une fois que les membres de la CENI sont désignés, la loi organique prévoit qu'ils prêtent serment à la Cour suprême. Et le contenu de ce serment est assez significatif, car chaque membre s'engage à être indépendant, neutre et transparent quand il accomplit sa mission. Un article de la loi organique, l'article 22, garantit encore cette indépendance qui est importante, qui dit que les membres de la CENI sont en fait indépendants et ne reçoivent aucune instruction d'une autorité extérieure, ce qui garantit encore cette transparence. Voilà un peu ce que je peux dire en ce qui concerne la moralité. Pour revenir maintenant aux journées portes ouvertes, je pense que beaucoup ont salué l'initiative. En fait, la CENI organise ces journées portes ouvertes pendant une semaine, du lundi 19 au samedi 24 mai. C'est pour pouvoir informer les différentes parties prenantes au processus électoral sur l'opération qui est en cours, l'opération de fiabilisation du fichier électoral et de stabilisation de cartographie opérationnelle. C'est important. En fait, la CENI veut être transparent. Je pense que ça travaille à travers la transparence que le processus sera beaucoup plus crédible. Il était important qu'on puisse non seulement les informer, expliquer comment se déroulent les opérations sur terrain, mais également les impliquer, toutes les parties prenantes, parce qu'il y a une partie qui est importante, c'est la fiabilisation, au cours de laquelle la CENI va inviter tous les électeurs qui ont été enrôlés en 2011, lors de la révision, et dans les sites de vote pour voir ces listes-là et vérifier si effectivement leur nom est sur la liste. C'est une activité qui est importante et capitale, car cela permet à l'électeur non seulement de connaître à l'avance le site de vote où il ira voter d'ici 2015, mais en plus de vérifier si la personne n'est pas sur la liste, il peut faire des réclamations auprès des proposés qui seront sur place, et ainsi on peut les rectifier. Donc c'est un travail qui est important, ces journées portes ouvertes qui ont été organisées pour informer les parties prenantes.
Alors, c'était la deuxième journée porte ouverte la semaine dernière. Disons, la CENI a accueilli les autorités traditionnelles, les coutumières, les responsables des associations de défense des droits de l'homme et organisations culturelles, les membres du cadre de concertation des sécurités électorales et justice électorale, à savoir les magistrats et les responsables des ordres professionnels et des syndicats. Alors, pour la première journée, et qui était concerné la première journée?
Bon, la première journée, c'était d'abord les confessions religieuses. Ensuite, les membres de la diaspora. Donc, en fait, par jour, on recevait les délégués des parties prenantes, qui sont plusieurs, notamment ceux qui sont dans les différents cadres de concertation. Et le programme était bien établi. D'abord, on leur projetait une projection PowerPoint sur le fichier électoral, avec tous les défis, pour expliquer pourquoi on a réalisé cette opération de fiabiliser le fichier électoral. Ensuite, il y avait également un documentaire pour montrer c'est quoi le serveur, parce que vous qui sont sur le serveur. Ensuite, alors, il y avait des stands où chaque partie prenante ou représentant passait pour voir comment s'est déroulée l'opération sur le terrain, dans le Bandundu, qui est en fait la première aire opérationnelle et qui est la province pilote avoir le temps de l'opération à Kinshasa et dans les 9 autres provinces.
Voilà, les opposants, parce qu'il y a un qui a parlé des opposants, est-ce que l'opposition a été aussi concernée par rapport à ces journées?
Ah bien sûr, puisqu'en fait, dans les parties prenantes, les opposants ils sont là, même dans les partis politiques, il y a les opposants qui sont venus visiter, et parmi notamment les institutions, les députés, les sénateurs, les opposants sont venus aussi visiter. Donc en fait,
aujourd'hui la population, quand elle parle des opposants, en fait, ils jugent l'opposition par rapport aux têtes, par rapport aux leaders, par exemple. Est-ce que ces leaders-là vous ont facilité aussi la tâche en ce moment? Ils ont donné leur accord, ils sont venus visiter quand même, ils ont se rendu compte, c'est faire une idée sur le travail qui est fait.
Bon, disons que d'une manière générale, peut-être qu'on peut dire, on n'a pas peut-être vu les têtes d'affiche, les grands leaders, mais ils ont délégué leur mandataire. Donc je pense que c'est suffisant. Il leur appartenait de venir eux-mêmes. Mais nous, on n'oblige personne. Nous, on lance l'invitation, on laisse les partis politiques libres de désigner qui veulent. Et ceux qui sont venus, à mon avis, ont quand même pu découvrir ce qui se faisait sur le terrain. C'était important pour eux de savoir ce qui se fait sur le terrain pour faire baisser le fichier électoral.
Alors, dans les années passées, les débats tournaient autour de ces fameux serveurs. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les explications apportées sur, disons, qu'on a dû apporter aux visiteurs, est-ce que les gens étaient convaincus quand même sur cette question liée aux serveurs?
Je pense que oui. D'abord, le serveur, on fait un mythe sur le serveur. Le serveur, c'est quoi? C'est en fait un ordinateur avec une grande capacité de stockage. Parce que vous savez, le fichier électoral contient des données sur l'électeur, le nom, l'adresse, le nom des parents, mais aussi les photos de l'empreinte digitale. Vous comprenez bien que loger les informations de 32 millions de lettres quelque part, il faut un ordinateur à grande capacité. En fait, le serveur, c'est ça. C'est un ordinateur à grande capacité qui est également appuyé par d'autres instruments, des disques durs, avec une grande capacité. Maintenant, le fichier électoral est logé dans le serveur. En fait, moi, je pense que ce qui intéresse plus les politiciens, c'est de pouvoir s'assurer que le fichier électoral est crédible et transparent. Le serveur lui-même est un instrument, un outil de travail pour la CENI, pour stocker ces données et les utiliser à tout moment. Puisque, à la veille des élections, pour informer la liste électorale et les mettre dans le site de vote, le bureau de vote, on tire ces fichiers électoraux dans le serveur. Mais on a quand même voulu montrer à quoi servait le serveur. Je pense que j'ai été convaincu. Maintenant, il y a des gens qui disent non, nous voulons toucher le serveur. Vous savez, c'est un outil qui est assez sensible. Mm-hmm. On doit protéger ça. Parce qu'imaginez-vous qu'aujourd'hui, le serveur est attaqué par un virus ou un incendie brûle le serveur.
On a plus de perte de données.
On a plus de fichiers électoraux. Mm-hmm. On a plus de données sur les électeurs. Il n'y a pas d'élection, il faut recommencer à zéro. Voilà,
parce que je peux alors, disons, par rapport à tout ce qui a servi donc dans le cadre de la mise en œuvre du processus électoral, c'est vrai que toutes les structures que nous avons citées ont appris sur les travaux qu'effectue actuellement la CENI, mais il y a notamment la formation en gestion des conflits électoraux, parce que nous savons que en 2006, tout comme en 2011, il y a eu pas mal de conflits, que ce soit au niveau de candidats qui ont été présentés par une structure de la majorité ou encore au niveau de l'opposition. Il y a eu des conflits qui ont été géré au niveau de la Cour suprême. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a aussi des garanties de ces côtés-là?
Oui, parce que la commission, pour garantir cela, a mis en place la commission d'intégrité électorale et qui est animée par le confesseur religieuse. Je pense que ce sont des personnes qui ont une haute moralité, qui ont la confiance de la population. Justement, pour assurer cette intégrité, que cette commission a été mise sur pied, elle va travailler sur le terrain. Pas seulement à Kinshasa, mais dans les provinces. Aussi bien avant les opérations électorales, pendant qu'après. Voilà un peu ce que la CENI a mis en place pour essayer de garantir un processus qui soit crédible, transparent.
081-890-6315 pour votre intervention en direct et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Quel regard portez-vous sur ces journées à porte ouverte organisées par la CENI et sur le processus électoral 2013-2016? Léon Zappo, Léon, vous êtes au Kassai occidental, plus précisément à Zappo. Bonjour Léon. Léon? Voilà, Léon n'est pas en ligne. On va prendre plutôt Daniel qui est à Lubumbashi. Daniel, bonjour.
Bonjour JR et bonjour à votre studio. Et bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Alors, vous avez suivi vos prédécesseurs qui ont salué l'initiative de la CENI de pouvoir organiser des journées portes ouvertes pour informer davantage sur les travaux qu'effectue actuellement cette organisation citoyenne, en passant par l'audit organisationnel, la formation en gestion des conflits électoraux, que la préparation de la présidentielle de 2016. Alors, quel regard portez-vous sur cette journée et sur les processus électoraux?
Bon, évidemment aussi, je commencerai toujours par saluer le souci de transparence qui anime la CENI, bien sûr après les élections anarchiques de 2011. Mais le grand problème, c'est difficile de penser avoir des élections crédibles ici chez nous, parce qu'il y a un travail qui doit être fait en amont. Je m'explique. Nous devons avoir une administration publique qui fonctionne normalement, et ça sera sur cette administration publique que sera posée l'administration électorale, pour avoir un fichier crédible. Tant que nous avons une administration publique qui ne fonctionne pas bien, nous aurons toujours des problèmes. Voyez comment c'était l'enrôlement en 2006. Hier, on avait déjà, il suffisait juste de présenter 5 cartes d'électeurs pour qu'on puisse vous livrer la carte d'électeur. Et je vous informe, il y a des Zambiens, il y a des Tanzaniens, il y a des Zimbabwéens qui ont la carte d'électeur congolais. Parce qu'il suffisait juste de présenter 5 cartes et pour pouvoir avoir une carte d'électeur. Donc, cela pose déjà un problème. Et après, même si on peut faire des journées portes ouvertes, mais si l'administration est fauchée à ce niveau-là, nous aurons toujours un fichier qui est incorrect et qui pose des problèmes. Si nous avons une administration qui fonctionne normalement, nous aurons aussi une facilité de pouvoir, quand est-ce que nous aurons à ajouter de nouveaux électeurs, tout cela va se passer dans des normes.
Oui, Léon. Est-ce que vous ne pensez pas, comme d'autres observateurs, que la réforme actuelle de la CENI, le format dans lequel travaille la CENI aujourd'hui, pourrait quand même vous donner quand même quelques garanties de crédibilité?
Je l'ai bien dit, le souci est là. Mais le plus grand problème, c'est que cette administration électorale se pose problème parce que l'administration publique ne fonctionne pas bien. Et je voulais citer par le côté des opposants. Ils sont là toujours en train de critiquer, mais qu'est-ce que nous vivons ici, comme ici à Lubumbashi, lors des élections de 2011? Les opposants n'avaient pas leur témoin à l'intérieur du pays.
Donc pour vous, c'est Daniel.
Et quand vous n'avez pas de témoin, vous pouvez faire des critiques en dehors, vous n'avez pas
de témoin. Daniel, vous avez suivi notre invité tout à l'heure, lorsque nous lui avons posé la question. Daniel, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui.
Voilà, je disais tout à l'heure, notre invité, lorsque nous lui avons posé la question de savoir si le tête d'affiche de l'opposition avait également participé à ces journées portes ouvertes, bon, malheureusement, ils se sont fait représenter, ils ont mandaté certaines personnes. Alors, je crois qu'à votre niveau, à entendre vos propos, c'est comme si vous tenez à ce que les opposants puissent vraiment accompagner aussi la CENI dans ce processus électoral 2013-2016.
Je ne vous attends pas bien à votre question, je vais la répéter.
Voilà, donc je disais, donc vous souhaiterez que l'opposition puisse également accompagner la CENI, notamment par leur présence quand on organise vraiment de telles journées.
Parce que déjà, en conséquence, pour nous aussi, ces témoins ne suffisaient pas seulement
de se plaindre ou de critiquer, voilà.
Mais il faut avoir aussi des témoins sur le terrain.
Oui, et pour les cas d'espèce, parce qu'il y a des journées qui sont organisées, il faudrait qu'elles soient présentes, qu'elles assistent, qu'elles posent des questions, que toutes les questions ou peut-être des zones d'ombre soient déjà balayées maintenant, au lieu d'attendre peut-être la veille des élections pour poser encore des préalables, c'est ça?
Tout à fait.
Voilà, merci beaucoup Daniel d'avoir appelé de Lubumbashi. Papi Kassema, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Monsieur Gilles, bon début de semaine.
Merci, vous avez la parole, votre point de vue Papi.
Merci, M. Gilles. Premièrement, je salue l'initiative Journée Porte Ouverte. Mais il serait aussi mieux d'étendre cela sur toutes les terres de la République parce que la démocratie du Congo ne se limite pas dans la
Kinshasa
seulement. Alors, la réalisation et la crédibilisation du processus électoral 2013-2016 dans notre pays a montré qu'il y a encore beaucoup de préalables à réunir avant d'arriver ou d'organiser les élections crédible, à savoir l'argent utilisé pour l'organisation de ces élections ne doit pas provenir totalement de l'extérieur, car, dit-on, la main qui donne, c'est la main qui dirige. Il faut également prendre les dispositifs adéquats pour le renforcement des capacités des juges qui connaîtront des contentieux électoraux après ces élections.
Oui, papy, pour ne pas vous couper la parole, je crois que nous aurons à organiser une émission telle que l'a souhaité le numéro 1 de la CENI, Monsieur l'abbé Malou. Je crois la publication de calendrier électoral interviendra, en tout cas sauf imprévu, aujourd'hui, soir ou demain. Je crois que avant la fin de la semaine, et sera notre invité la parole aux auditeurs, pour balayer toutes ces questions liées aux moyens, parce qu'il y a un auditeur qui a évoqué également ces problèmes. Est-ce que ça sera avec des ressources propres ou encore peut-être on va tendre la main vers l'extérieur? Nous savons que c'est l'extérieur, disons à l'extérieur tout comme à l'intérieur, qu'on avait exigé à l'époque la réforme de la CENI, et le format que nous avons aujourd'hui, c'est la volonté de tous. Je crois qu'à ces niveaux, comme vous papy, vous partagez quand même l'avis selon lequel que nous pouvons quand même avoir une certaine crédibilité par rapport au format actuel.
Bon, comme les prédécesseurs ont déjà dit, le Congo n'a pas un problème d'institution. Le Congo a besoin des hommes. Donc, il serait mieux au préalable que la population congolaise en général puisse avoir une conscience citoyenne. Parce que si on changeait les bureaux de la CENI aujourd'hui, les gens qui viendront Alors, je disais aussi par ailleurs que à l'instar de l'autorité traditionnelle, il faut aussi que la population en général soit suffisamment informée de ses droits et devoirs en matière électorale, de sorte qu'elle soit à mesure de lire les dirigeants qui conviennent, en la démontrant les inconvénients du tribalisme, du clientélisme et du fanatisme en matière électorale. Et si cette population est suffisamment informée, elle sera capable de faire un bon contrôle citoyen et mettre à la disposition de la classe politique leur état de besoin, car, dit-on, un bon citoyen est celui qui donne à l'État les moyens de faire sa politique. Et c'est le niveau d'exigence et du contrôle des citoyens qui relève les profits de ses dirigeants.
Voilà, merci beaucoup. Merci papy, merci d'avoir contribué dans cette émission. Désiré Moulekela, vous êtes avec nous, directeur chargé de la sensibilisation et éducation civique électorale à la CENI. Comment réagissez-vous?
Bon, d'abord, il y a le problème de financement qu'on a évoqué. Il faut reconnaître que les élections de 2006 ont été financées en grande partie par la communauté internationale. C'était le début. Mais en 2011, pratiquement 80% ont été financés par le gouvernement congolais. Et pour le moment, les activités qui sont en cours sont financées entièrement par le gouvernement congolais. Donc on a déjà renversé la vapeur. Il n'y a pas tellement de crainte pour qu'on dise, parce que c'est la communauté internationale qui finance le plus, qui peut influencer les élections. Deuxièmement, il y a un auditeur aussi qui a souhaité que les jeunes portes ouvertes soient étendues en province. Il faut dire que c'est la première fois que la CENI organise une telle opération, une telle activité de communication. Il est effectivement prévu dans le cadre de la transparence que ces journées puissent également se transporter dans toutes les provinces. Ensuite, on insiste beaucoup sur la crédibilité des scrutins. On dit c'est bien ce qui se fait maintenant, mais pour les scrutins. Mais il faut reconnaître que les scrutins crédibles passent d'abord et avant tout par un fichier électoral crédible. Donc, c'est comme ça que la CENI, avant de pouvoir programmer les scrutins, a d'abord commencé par cette activité qui veut rendre le fichier crédible et transparent. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut souligner également que, et beaucoup de l'ont dit, ils ont demandé aux partis politiques d'envoyer leur témoin. C'est vrai, parce que si vous voulez savoir si c'est transparent, vous devez être là présent quand.
Et c'est le moment.
C'est le moment de le faire. Et puis la CENI, sa politique aussi, veut maintenant en fait rendre l'observation électorale permanente, c'est-à-dire à long terme. Donc maintenant, on va accréditer des gens, non seulement pour une opération comme limitée, mais pour toutes les opérations. Voilà toutes sortes de dispositions que la CENI est en train de prendre pour vraiment rendre le processus complètement transparent. Et avec les cas de concertation qui sont animés maintenant, avec toutes les parties prenantes, c'est aussi un sujet de transparence où on communique avec les parties prenantes au processus, on recueille leurs avis et ça permet en fait d'améliorer le processus électoral.
Voilà, on va prendre Serge qui est à Kananga, Maître Gaston à Kikwit. Serge, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tous les viewers.
Vous avez la parole, Serge. Dommage, Serge n'est plus en ligne. On va prendre plutôt Maître Gaston qui est à Kikwit. Maître Gaston, bonjour.
Bonjour, à vous aussi.
Vous avez la parole.
Je suis à Bandunduville, je suis à Kikwit.
Voilà, Bandunduville, dans la province de Bandundu.
Ah ouais.
Oui, allez-y, vous avez la parole.
Vous savez que non, votre préoccupation a dévoilé à d'abord la journée qui est organisée, et puis le processus électoral en soi. En RDC, je dirais par rapport à la journée, qu'il ne suffit pas d'organiser une journée ou des journées, mais il faut aussi voir la quintessence des questions qui sont posées par rapport à ces journées. Hein, donc il faut qu'il y ait des questions, hein, qui sont des zones d'ombre, comme vous aviez dit, et que nous devrions, à mon avis, avoir des réponses auprès de cette institution-là. Donc,
oui, mais, oui, Maître Gaston, je pense que ce n'est pas un secret. Tout le monde aujourd'hui parle de problèmes de serveurs, tout le monde parle de l'administration électorale. Il y a la question sur la gestion des conflits électoraux et la préparation d'ailleurs de la présidentielle de 2016. Et toutes ces questions, je crois que ça a fait l'objet de ces journées portes ouvertes. Je crois que c'est la quintessence même.
Oui, mais moi aussi je pourrais avoir mes questions.
Vous pouvez me poser là alors.
Oui, oui, parce que moi je pense que non, c'est une institution en problème par rapport au processus en soi. Vous allez comprendre que c'est un organe technique, hein, qui est là pour organiser les élections. Mais si, par exemple, que moi je dis poser la question de savoir pourquoi, parce que jusque-là, les élections qui vont être organisées, ce sont des arriérés. Ils vont commencer par des arriérés qui n'ont jamais été organisés en RDC. Normalement, ils devraient, à mon avis, être organisés depuis 2006. On ne l'a pas fait. Mais maintenant, c'est en 2014 qu'on programme, je pense, en 2015 qu'on a organisé ces élections-là locales, municipales et urbaines. Mais vous comprendrez aussi que, en 2006, il y avait une partie des élections qui étaient organisées, mais en 2011, on a restreint. On n'a pas les sénateurs qui sont là-bas. Ils datent du mandat passé. Il y a aussi des députés provinciaux qu'on a proclamé cette fois-ci en 2016.
Oui, mais Maître Gaston, qu'est-ce que vous, Maître Gaston,
tout un mandat comme ça, vous ne craignez pas aussi que...
Maître Gaston, qu'est-ce que vous souhaiterez, vous, que ces élections soient organisées tardivement ou vous souhaiterez qu'elles ne soient pas organisées? Parce que d'aucuns disent que mieux vaut tard que jamais.
Bon, personnellement, pour le moment, je vais vous dire une chose. On n'a pas besoin des élections locales, municipales. Moi, je vais vous dire qu'on arrête en RDC aux élections présidentielles. Si ça peut se réaliser en 2016, qu'on consacre tous les efforts pour ça.
Mais les développements...
Ce sont des élections, à mon avis, qui viennent ici pour embourber, disons, des gaspillages inutiles. Donc, qu'il n'y ait pas des élections sur ce plan-là. Et puis,
voilà,
on se les dise aussi.
Merci beaucoup Gaston d'avoir appelé des bandes de Nouville. On va prendre Robert qui est à Kinshasa. Bonjour Robert. Robert, vous êtes avec nous? Oui Robert, vous êtes déjà en ligne et vous êtes en direct. Robert, bonjour. Voilà, Robert est très distrait. On revient à vous, monsieur Désiré. Voilà, on a suivi la réaction tout à l'heure de Maître Gaston. Il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'appréhensions par rapport au processus électoral 2013-2016. Pour lui, en tout cas, il estime que c'est pas important aujourd'hui d'organiser encore les élections locales, urbaines et municipales. Il faut qu'on aille directement au but pour éviter des dépenses inutiles.
Je ne sais pas, c'est son point de vue, mais nous pensons que ces arriérés sont importants, puisque la démocratie à la base... C'est en fait les élections urbaines, municipales et locales. Et notre pays, pour assurer son développement, doit assurer une décentralisation. Or, ce processus de décentralisation ne passe que par les élections locales. Il n'y a pas de centralisation sans élections. Effectivement, ça aurait pu être organisé dans le premier cycle électoral, mais c'était en fait faute de textes de loi. Mais maintenant que les textes sur la décentralisation sont là, les entités décentralisées et déconcentrées, maintenant la scène est en mesure de pouvoir faire ces élections-là. Et je pense que comme ce sont les arriérés, qui n'ont jamais été faits et qui vont consacrer la démocratie à la base, parce que c'est important pour le développement du pays qu'on fasse ces élections-là maintenant. Ces élections ne vont pas porter atteinte aux élections de 2016. Donc il y a plus de peur que de mal. Nous pouvons les organiser maintenant et maintenir l'échéance de 2011 pour les présidentielles et les législatives nationales.
Alors on va lire quelques messages qui nous sont parvenus. Il y a Gauthier Madika qui dit: moi je trouve qu'il ne suffit pas de laisser les opposants diriger la CENI, ils risquent même de faire pire que ce que nous avons vu jusque là. Il est plutôt question qu'on ait des partis politiques sérieux capables de disposer de témoins dans tous les bureaux de vote et que les copies des procès-verbaux leur soient données. Destiné Mukili Rouboua de Harou en Ituri dit ceci: le gouvernement au pouvoir a toujours tendance à modifier la Constitution l'opposition. Et de son côté, la CENI veut commencer par organiser des élections urbaines, municipales et locales. D'où je me demande si, sur le plan pratique, il aura réellement des élections présidentielles en 2016. Denis Trésor Kamanda, depuis Houston, au Texas, aux États-Unis, les journées portes ouvertes organisées par le nouveau bureau ne garantissent pas la transparence aux élections. Les deux précédentes élections nous ont fait voir l'échec et les désordres de la CENI. S'il vous plaît, cette fois-ci, faites un bon travail et proclamez celui qui sera choisi par le peuple. Voilà, on s'arrête un peu là. Voilà, réaction par rapport à toutes ces réactions qui nous viennent de partout.
Bon, je pense que je voudrais confirmer que le fait d'occaser des élections urbaines, municipales et locales en 2015 ne peut pas empêcher que la CENI organise des élections présidentielles. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Alors, autre chose aussi, on a posé des questions sur les journées portes ouvertes. Pendant ces journées portes ouvertes, ceux qui sont venus ont posé des questions pertinentes. Sur les journées portes ouvertes, on a eu les parties prenantes. Je prends un exemple simple. On a expliqué à ceux qui sont venus que lorsqu'on a terminé la stabilisation, que l'on a regroupé les sites, les villages autour des sites de vote, qu'on a, mis les électeurs dans le circonscription électorale, parce que pour les élections locales, la circonscription, c'est le groupement ou la commune. Lorsque cette opération est faite, on va imprimer des listes électorales provisoires qu'on va afficher dans les sites de vote. On appelle la population à aller voir ces listes de vote pour voir s'ils y sont. Ça nous permettra notamment de récupérer quelques omis et de corriger quelques erreurs. Et cette fois-ci, la différence de ce qui s'est passé dans les précédentes élections, cette fois-ci, les listes de vote seront affichées sur les sites de vote avec photo. Avant, c'était seulement les données numériques avec le nom.
Est-ce qu'à ces jours, ces fichiers sont mis à jour?
Il est en train de mettre à jour par cette opération qui est en cours.
Parce qu'il y a des cas de décès, il y a des cas de omis, il y a des doublons. Il y a pas mal de problèmes. Est-ce que le travail est fait actuellement?
Oui. Ce que je veux vous dire, c'est que pour cette opération en cours, par exemple, de fiabilisation, qu'est-ce qu'on essaie de faire? De récupérer les omis. Il y a eu en 2011 plus ou moins 800 000 omis. Comment on fait pour les récupérer? Avec les CD. Quand on a fait la révision en 2011, qui était restée au niveau des antennes, on les remonte à Kinshasa. On a maintenant des données, toutes les données qu'il y avait. Parce qu'en 2011, on avait seulement remonté les CD hebdomadaires et finaux. On n'a pas laissé les CD journaliers sur place. Maintenant, pour récupérer les omis, maintenant on fait remonter les CD. Et à ce jour, le travail qui se fait sur terrain, la remontée des CD, le traitement au niveau informatique, ça permet déjà de récupérer 200 000 omis. Et l'opération continue. Donc, vous voyez qu'on est en train de faire un effort pour fiabiliser.
Et en 2011, on avait crié sur au fait des gens ont dénoncé les bureaux fictifs. Il y a des bureaux qui ont opéré, qui n'existaient pas.
Bon, je vais revenir à ça. Maintenant, je parle des doublons. La même opération de fiabilisation, lorsqu'on a fini à récupérer les omis, on doit également déboulonner pour savoir s'il y a des gens qui sont enregistrés plusieurs fois. Et cette fois-ci, l'avantage, c'est que ce travail se fait non seulement au niveau professionnel, mais au niveau national. C'est-à-dire chaque électeur est comparé aux 32 millions de lecteurs pour voir si un électeur omis récupéré n'est pas déjà sur la liste électorale avec un autre nom. Et actuellement, on a déjà découvert plusieurs doublons des personnes qui sont enregistrées dans deux ou trois provinces. Maintenant, pour les sites de vote. C'est vrai, il y a eu des interactions de certains électeurs qui ne connaissaient pas leur site de vote. C'est pour ça que cette opération leur permettra, avant d'aller aux élections, de voir dans les sites de vote, si leur nom est là, ils connaîtront leur site de vote avant. En plus, il y a une nouveauté qui est très importante. C'est qu'aujourd'hui, la CENI a une unité de cartographie numérique. Toutes les données qui sont récoltées sur le terrain, pas seulement sur les sites de vote et les groupements, mais également sur l'emplacement, les données géospatiales, permettent maintenant à la CENI d'avoir une carte géographique où on a l'emplacement exact de chaque site de vote, avec le nom de ce site de vote, soit une école ou un centre médical. Et on a également, grâce à cette opération qui se passe sous terrain de fiabilisation des cartographies, on a exactement la délimitation des groupements. Donc, en fait, avec cette opération qu'on est en train de faire, la CENI, au final, aura un atlas électoral avec l'emplacement des groupements, des secteurs, dans les provinces, et surtout des sites de vote, avec tous les villages qui sont
dans toutes ces structures qui ont été invitées lors des journées portes ouvertes. Ils ont eu à se faire une idée par rapport à ce travail.
Oui, ils ont eu l'information de chaque station. On démontrait comment se fait l'opération sur terrain à chaque étape. On leur a monté les cas géographiques. Et je voudrais vous dire, cette opération est importante, par exemple, pour le territoire de Popocatépetl dans le Bandundu. On avait dans la base de données, on savait qu'il y avait 80 trois villages. Puisque pour nous, à l'intérieur du pays, il n'y a pas d'adresse, peut-être de rue, mais c'est le village qui constitue l'adresse de l'électeur. Il y avait 83 villages dans la base de données. Après cette opération, sur terrain, par les chargés de collecter les informations, on a découvert 1020 villages découverts sur terrain. Donc vous voyez à quoi sert cette opération. Ça permet de fiabiliser non seulement la liste d'identité territoriale, la liste des sites de vote, mais également de pouvoir assigner chaque électeur à la circonscription électorale.
Voilà, on va rouvrir encore les standards. Dieudonné est à Likassi, Mathieu de Kananga et puis Ismaël à Lubumbashi. Dieudonné, bonjour.
Bonjour, Pierre.
Dieudonné, merci d'être de nôtre. Vous avez la parole, votre point de vue.
Merci beaucoup, Pierre. C'est Dieudonné du Bois de Likassi, bien entendu. Et je voudrais parler de cette journée ouverte à Kinshasa. Quand est-ce que ça sera? Encore ici chez nous en province,
à travers le pays.
Notamment dans l'intérieur des provinces, bien entendu. Et la deuxième problème que nous sommes en train de suggérer chaque jour, c'est le problème de corruption et les recommandations aussi que nos autorités sont en train de se recommander comme des cacahuètes qui sont vendues dans les marchés. Allô?
Oui, allez-y, Dieudonné.
Bonjour.
Oui. Voilà, on a un petit souci parce que là, vous nous appelez de très loin. Dieudonné, vous êtes en ligne. Dommage. Alors, on va prendre Mathieu, prophète Mathieu de Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Gère. Bonjour, l'invité. C'est prophète Mathieu à partir de Kananga. En ce qui me concerne, Gère, je connais qu'après l'épouvantable élection de novembre 2011 passée, des CENI, Goï Moulunda, avait laissé des infections dans la base des données, à savoir l'absence d'une planification qui entraîna un déficit créant des logistiques avec une intégrité du thèse de la population dans les fichiers non fiables. En tant d'autres, et tant d'autres aspects liés à la moralité, avaient conclu à l'interruption des cycles électoraux. Mais malgré des journées portes ouvertes qui se font par-ci par-là, la population garde toujours les stigmates de 2011. En plus de cela,
voilà,
il y a le problème du comptage des nombres de la population congolaise qui n'a pas encore été résolu.
Voilà, pas prophète Mathieu.
Demande,
oui, prophète Mathieu, si on peut avoir un regard vers l'avenir maintenant, parce que c'est vrai, ne nous aimerons pas les souvenirs, des mauvais souvenirs parfois, parce que je crois que l'objectif de cette émission, c'est voir un peu l'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est favorable, qu'est-ce qui doit être fait pour que demain, nous accédons quand même au développement de notre pays. Aujourd'hui, c'est vrai, les journées à portes ouvertes sont organisées pour éclairer, élucider un peu toutes ces zones d'ombre. Hier, ça faisait débat sur les serveurs, La gestion des conflits. Alors aujourd'hui, la CENU vous tend la main. Je crois que c'est nécessaire quand même qu'au niveau de la société civile, au niveau de la population, qu'on puisse quand même aller vers la CENU pour l'accompagner.
Je crois que la CENU devait profiter de l'occasion pour d'abord sensibiliser la population à partir de nos villages, nos territoires, si de suite, puisque nos mamans et nos papas qui sont au village, ils ne sont pas sensibilisés. C'est Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo dans son ensemble. Il faudrait d'abord la sensibilisation de la population. Ce n'est pas s'arrêter dans des provinces de chef de
dans
la
ville
pour dire que voilà, nous avons sensibilisé. Il faut qu'ils partent dans des villages et partout ailleurs pour que les gens soient sensibilisés. Et nous aussi, nous sommes de la société civile, nous sommes là pour les apporter concours. Puisque nous, cette fois-ci, nous voulons que ça soit la bonne.
Merci beaucoup, Mathieu. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Ismaël.
Ah, bonjour, JR. Et bonjour, Radio Kapi. Bonjour à notre invité.
Vous avez la parole, Ismaël.
Ok, merci de m'avoir accordé la parole pour ce sujet qui est très intéressant pour intervenir à notre pays qui va vraiment mal. Pour ce sujet-là, moi, je peux dire que la CENI peut cesser de distraire les peuples congolais. Si on se réfère aux élections de 2016 et de même les élections de 2011, il y avait toujours des désordres qui se passaient à la CENI. Alors, que dit les élections prochaines? Il y aura toujours des désordres. Ce sont les mêmes membres de la CENI qui sont manipulés, qui exercent les fonctions jusqu'aujourd'hui. Imaginez.
Alors, quel commentaire faites-vous, Ismaël? Ismaël, quel commentaire faites-vous? Aujourd'hui, il y a des journées portes ouvertes. Autrefois, il n'y en avait pas.
Bon, avec cette porte ouverte qui se passe à Kinshasa, moi, je vois que c'est une tromperie que la CENI va tromper le peuple congolais.
Merci beaucoup, Ismaël. Merci. Merci beaucoup. On va prendre Aloïs. Aloïs, bonjour.
Bonjour, Gilles Longuembo.
Voilà, les avis sont partagés à Loïs, c'est vrai, Ismaïla, n'est pas du tout favorable à l'organisation de ces journées portes ouvertes, mais tandis que d'autres auditeurs qui ont précédé, notamment Omar, Franck de Vienne et aussi la Guillois, qui ont salué les deux mains ces journées portes ouvertes, qui valent quand même son pesant d'or. Alors, vous, personnellement, quel est votre point de vue, Aloïs?
Merci beaucoup, messager, pour la parole. Ma préoccupation de ce jour, c'est d'abord la félicité et quelques petits efforts entretenus par l'institution de Malmalou, la Sénidon. Mais ma crainte, c'est que ceci peut s'avérer une tromperie, étant donné que nous connaissons les institutions, valent ce que valent leurs animateurs. Les auditeurs qui m'ont précédé l'ont déjà soulevé. Nous allons nous rappeler que au regard de tout ce qui s'est passé, les animateurs de ces institutions sont vraiment désavoués par la population. Alors, j'avais quelques préoccupations à poser à l'invité. Qu'est-ce qui est en train réellement d'être fait pour que vraiment la population puisse redonner
Voilà, on a un petit souci aussi avec la ligne de Aloïs qui nous appelait des Kananga. Voilà, on va prendre Amoury qui est à Kamina, pratiquement au Katanga. Amoury, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à l'invité du jour.
Voilà, vous avez la parole, Amoury.
Oui, merci. Moi, si j'ai bien suivi l'invité du jour, il a essayé d'insister sur le problème des territoires. Moi, j'ai effectué, donc j'étais l'un des membres des électeurs du Kabongo dans les territoires de Kabongo, district du Haut-Lomami. En tout cas, vous verrez les gens qui quittaient plus de 50 kilomètres pour venir voter. Est-ce qu'il n'était pas facile de faire même plus de 10 kilomètres ou bien 5 kilomètres que les gens puissent venir voter aisément? Il y a des gens-là qui quittaient donc plus de 50 kilomètres pour la nourriture.
Voilà,
ils peuvent dormir là.
Merci beaucoup, Amoury. Vous plaidez pour le rapprochement de bureaux des votes. Hein. Il faut que la population soit formée autour de bureaux des votes. Merci beaucoup, Amoury. 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Vivez deux jours d'exception au rythme du jazz à Kinshasa, les 31 mai et 1er juin, au Théâtre de Verdure avec la 8e édition du festival Jazzif. A cette occasion, nous célébrerons tous ensemble les 20 ans de carrière de Lokua Kanza et fêterons le jazz avec aussi Richard Bonnat, Jean Gobal, Sarah Tavares et bien d'autres. Des concerts à retrouver prochainement sur Radio Capi. Pour toute réservation de billets à ce festival, appelez le 081 059 98 88 ou allez sur www.jazzif.com.
Parole aux auditeurs.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs. Dans quelques minutes, nous allons nous quitter. Alors, Désiré Moulekela, vous êtes directeur chargé de la sensibilisation et éducation civique électorale à la CENI pour cette dernière série des auditeurs. Alors, quelle réaction avez-vous?
Je veux d'abord rassurer le dernier intervenant qui a parlé en fait de l'alignement des sites de vote par rapport à la population. L'opération en cours va justement corriger cela. Comment? Maintenant, nous voulons que dans chaque groupement, il y ait au moins un site de vote. Et lorsque le groupement est étendu, ou s'il y a des obstacles, les préposés à la collecte qui étaient sous terrain, en accord avec le chef de groupement, pouvaient proposer la création d'un autre site de vote. Ce qui fait que, disons, l'éloignement sera peut-être d'une moyenne de 10 km. On ne fera plus 50 km pour aller voter. Je crois que c'est quand même une préoccupation qui est là et qui est prise en compte par l'opération en cours. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui parlent de tromperie, non. Je ne porte veste en fait justement pour qu'il y ait la transparence. On ne veut tromper personne. On veut montrer ce que nous faisons de manière transparente, que les gens puissent voir. Ils peuvent apporter des critiques qui vont nous permettre en fait d'améliorer la crédibilité donc des opérations électorales. Ensuite, l'effort qui est fait également par la CENI pour se rapprocher de la population, c'est qu'aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, au départ on avait 11 secrétaires exécutifs provinciaux, dans les 11 provinces qui existent. Mais, à cause de la future configuration du pays, il y aura 26 provinces. Aujourd'hui, la CENI a nommé 26 secrétaires exécutifs provinciaux. En 2003-2004, on avait 64 antennes, c'est-à-dire, c'était avant les bureaux de liaison. Aujourd'hui, on a 260 antennes. Donc, on a maintenant implanté une antenne par territoire et par ville. Vous voyez, la CENI fait l'effort pour se rapprocher davantage de la population parce que la gestion des élections, c'est une gestion de proximité. S'il faut gérer l'électeur, il faut aller vers l'électeur. Donc, ça comprend que les efforts sont quand même effectués par la CENI pour pouvoir améliorer sensiblement le processus électoral.
Voilà. Et si je dois paraphraser le président de la CENI qui disait une fois, on va organiser cette fois-ci des élections crédibles, transparentes et professionnelles.
Effectivement.
Donc c'est à ce niveau-là.
C'est à ce niveau-là. Par exemple, l'unité cartographique qui est mise en place, ça marque encore un plus dans la professionnalisation des activités électorales.
Désiré Moulekela, nous vous rappelons que vous êtes directeur chargé de la sensibilisation et éducation civique électorale à la CENI. Merci d'avoir été des nôtres.
C'est moi qui vous remercie.
Allô? 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 Mais... il ne répond pas.
Voilà, Dieudonné Nyangasa était à la machine. Noël Aluzitu a réalisé cette émission qui vous a été présentée et coordonnée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Gaka. On se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.